L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bon week-end, bienvenue sur BFM Business et nous voilà partis pour l'atelier numérique, votre rendez-vous dédié à l'actualité qui est à l'économie numérique chaque samedi sur BFM Business, exclusivement sur BFM Business de 16h à 18h. Très heureux de vous retrouver avec au menu de cet atelier numérique, bien sûr, tout à l'heure le crash test d'Antoine. On va retrouver notre passion selon Sanette, notre web stratégie, notre focus startup, notre enquête de l'atelier et puis toute l'équipe de l'atelier. Jean de Chambure aussi sera là dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, pour débuter, à mes côtés, Lila Megraoua, Aurore Géraud et Pauline Cantner qui est à San Francisco à l'atelier US. Bonjour mesdemoiselles.
Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais, au menu dans quelques instants, le Silicon Carnet, avec Pauline qui nous fera un spécial SXSW, vous savez, ce grand rendez-vous qui se déroule aux US. Notre cybergadget avec Aurore Géraud. On parlera lors de notre enquête de l'atelier de sommeil et de nouvelles technologies, hein, tout à l'heure, Lila.
Oui, c'est très important de bien dormir.
Voilà. Est-ce qu'il est toujours souhaitable d'avoir des écrans sur notre table de nuit et de consulter son smartphone avant de s'endormir? Vous verrez que non. Bien évidemment, notre web stratégie, on va parler de pharmacie connectée. On va parler aussi des applications satellitaires ou plus simplement des technologies spatiales au service de l'innovation tout à l'heure. Et puis, bien sûr, notre rendez-vous avec la rédaction de 01net, le World Tour, bien évidemment, et notre dossier de l'atelier aussi, et le crash test d'Antoine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On commence par, évidemment, l'actu vue par l'équipe de l'atelier avant de retrouver Jean de Chambure depuis Shanghai. Et on va commencer donc par San Francisco. Et vous, Pauline Cantner?
Oui, bonjour. Alors, bonjour. Moi, je vais vous parler de WhatsApp au Brésil.
WhatsApp au Brésil, ça cartonne là-bas?
Alors ça cartonne. En effet, genre j'ai vécu au Brésil, donc je peux en parler. On m'envoyait énormément de messages. Les Brésiliens envoient très peu de messages textes. Finalement, ils passent tous par WhatsApp. Si bien qu'en réalité, il y a 93 millions d'utilisateurs de WhatsApp au Brésil. C'est une personne sur deux concrètement.
Ah oui.
C'est énorme. Et les Brésiliens, en fait, cultivent l'informel. C'est vraiment un peuple qui aime affubler tout ce qui les entoure de surnoms, même les marques avec qui ils sont amenés à interagir. Et ainsi, en fait, Facebook devient Facé, Instagram Insta et WhatsApp ZapZap. Et les Brésiliens aiment ZapZap. Ils aiment tellement WhatsApp qu'en fait, ils s'en servent pour parler avec les marques, puisque les marques ont leur propre compte WhatsApp avec qui, en fait, avec lesquels je peux échanger, je peux poser des questions. De la même manière qu'on a, vous savez, des applis avec de la messagerie directe ou un conseiller en ligne que je peux avoir sur Facebook Messenger. Là, c'est via WhatsApp. Donc, les marques poussent des commandes, des promotions, fédèrent leur communauté, en fait, grâce à WhatsApp. Et on a même en fait les préfectures locales à Rio qui l'utilisent pour communiquer avec les citoyens. Donc si vous vous rappelez, Rio a accueilli les JO en 2014, la Coupe du Monde en 2014 et les JO en 2016. Donc la ville s'est beaucoup transformée d'un point de vue infrastructure. Et pour communiquer avec les citoyens sur les routes fermées ou les travaux dans tel et tel quartier, les bus publics avaient un petit écriteau à l'arrière avec un numéro WhatsApp sur lequel en fait tout citoyen peut entrer en contact avec un agent de la préfecture ou de la municipalité locale. Tiens, pour savoir qu'est-ce qui se passe à Rio.
Pas mal.
Voilà, donc c'est assez assez impressionnant. Et en fait, ça s'inscrit peut-être dans une tendance plus large qui est celle de... on entre dans une nouvelle ère du direct marketing qui est le direct messaging. Et c'est pas forcément via les messages textes, parce que dans le cas de Rio, les télécoms ont un pouvoir assez monopolistique. Envoyer un texto coûte 55 fois plus cher qu'aux États-Unis.
Ah oui, c'est pour ça aussi.
Au Brésil. Mmh. Voilà, exactement. Du coup, WhatsApp est un nouvel outil CRM, mais aussi outil marketing de prédilection au Brésil, mais peut-être pas que.
Très bien, passionnant tout ça. Et c'est étonnant de voir que WhatsApp a creusé son sillon, a fait son trou, alors qu'il y avait d'autres systèmes, hein, comme par exemple Viber, qui n'a pas réussi à rencontrer le même succès, alors que c'était à peu près la même solution. Hein. Lina Megraoua.
Mais qui rencontre un succès assez fou au Maghreb.
Oui, oui, c'est étonnant.
Au Moyen-Orient,
hein.
C'est assez dingue de voir les différences en fonction des zones géographiques. Moi, je vais vous parler d'impression à la demande en librairie. Alors, c'est assez étonnant. En fait, la semaine dernière, la librairie des... fameuse, mythique édition PUF, Presse Universitaire de France. Vous savez, la maison d'édition qui édite les Que sais-je, notamment. Donc en fait, ils ont réouvert leur librairie dans le 6e arrondissement à Paris. Pourquoi je vous en parle ? Parce que en fait, cette réouverture a été marquée par une nouveauté de taille, à savoir la mise en place en fait d'une imprimante à la demande en magasin. Alors cette machine porterait le doux nom d'Espresso Book Machine. Alors cette machine vous imprime pas des cafés,
non.
Elle vous imprime.
Ça serait pratique, hein.
Ça serait bien, ouais.
Les deux en même temps. Vous pouvez m'imprimer un espresso, s'il vous plaît, avec ou sans sucre. Bon, ça va, ça, je vais me débrouiller.
C'est
pas mal.
D'un bouquin. Alors,
vous rendez compte que peut-être qu'un jour on aura ces discussions, hein? Oui. Tu peux m'imprimer un sandwich ? Ok, d'accord, je m'en occupe.
Ça sera... Alors, comment ça... Le principe est assez simple. Cette imprimante... Mais non, pas du tout. Cette imprimante permet d'imprimer un livre à la demande.
Ah oui.
Donc en librairie. Alors, comment ça fonctionne ? Les clients, en fait, de la librairie ont accès à des tablettes sur lesquelles ils vont pouvoir choisir parmi les 5000 titres environ du catalogue et nouveautés de PUF. Et en fait, il leur suffit de sélectionner l'ouvrage de leur choix, puis de l'imprimer en direct avant de l'acheter. Et ça, c'est plutôt intéressant, au même prix que s'il avait déjà été imprimé.
Ah.
Alors, il leur suffit d'attendre quelques minutes pour avoir le livre souhaité tout chaud entre les mains.
Super.
Donc ça, c'est quand même assez canon pour les gens qui font des recherches, qui ont besoin d'un livre en particulier
à la minute,
et à la minute, et qui n'ont pas forcément le temps d'attendre que leur libraire commande un livre. Alors pour autant, il reste quand même une dernière barrière technique. Seuls les ouvrages de moins de 850 pages peuvent être imprimés par cette machine. Mais bon, c'est vraiment dommage.
Ouais. Les Misérables, c'est mort, quoi. Hein?
Ou bien en plusieurs tomes. En plusieurs tomes.
Voilà.
Voilà.
Mais en tout cas, belle initiative, sympa.
Belle initiative des éditions PUF, qui dépoussièrent un peu la librairie.
Exactement. Merci Lila. Aurore Géraud.
Oui, oui, oui.
Une petite news.
Alors moi, je vais vous parler des assistants virtuels sur vos téléphones, à la Siri, à la Cortana, etc., qui ne sont pas du tout empathiques. Alors pas empathiques dans le sens où si demain vous avez un accident qui se passe dans votre vie, c'est-à-dire si vous dites que vous êtes fait agresser, que vous vous sentez pas bien, que vous êtes dépressif, que vous avez envie de vous suicider, eh ben ils ne comprennent pas du tout ce que vous êtes en train de leur dire.
Ah bon ?
Et en fait, une étude de l'Université de Californie et de Stanford a révélé que quand on leur dit, écoutez, je me sens pas bien, je me sens pas bien, j'ai été agressé ou des choses comme ça, les différents assistants vont répondre, je ne comprends pas ce que vous demandez, je ne peux pas vous donner de solution, je ne peux pas, ils ne vous amènent jamais en fait vers
vers un
numéro
d'accueil pour discuter, etc.
Alors ça inquiète un petit peu.
Tiens, c'est étonnant ça.
Oui, tout à fait. Et ça, alors, je crois que c'est Apple qui a expliqué que si de temps en temps Siri pouvait envoyer vers le 911, le fameux américain des secours, mais pour certains, effectivement, certaines requêtes très précises du genre je me fais battre par mon mari ou ce genre de choses. Seulement.
Tiens,
en
fait.
Et donc, ce qui est pas inintéressant, c'est que
c'est plus sur une action en fait qu'il va appeler les urgences que sur un état.
Sur un état. Alors, par contre, ils se rendent compte quand même que quand on est dépressif ou ce genre de choses, que c'est inquiétant. C'est quelque chose d'inquiétant. Ils vont pas vous envoyer vers quelqu'un pour soigner ça, mais ils vont vous dire que c'est inquiétant. C'est quelque chose qui n'est pas normal.
Ouais. Le problème, c'est que parfois, ces assistants vocaux comme Cortana vous sortent des blagues.
Et c'est pas le bon moment, en fait.
Et le problème, c'est que quand on écoute ces blagues, parfois, je pense qu'on aura encore plus, on se sentira encore moins bien. C'est ça, tellement elles sont pas terribles, en fait. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Très bien, merci beaucoup Aurore Géraud. Et maintenant, place à notre rendez-vous depuis l'Asie avec Jean de Chambure qui est là, le vu d'Asie de Jean. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors Jean, qui vous le savez, est à Shanghai. Et Jean, on va parler aujourd'hui du O2O, du online to offline en Chine.
Oui François. ça, c'est une grande, grande tendance hein, de l'Internet en Chine. Je sais même plus si on peut parler de l'Internet en Chine. En fait, c'est du mobile en Chine, tellement tout est sur téléphone mobile, tellement on voit les usages aujourd'hui centrés, concentrés, intégrés sur le mobile. Enfin, quoi qu'il en soit, donc vous l'avez compris, le online to offline, c'est quoi? C'est des services de la vie courante, de la vie en dehors du mobile. Ça peut aller, bien sûr, par exemple, d'un chauffeur privé. Vous savez qu'il y a le fameux Didi Kuaili en Chine, en passant par des services de pressing, des toutes sortes de livraisons, de la manicure à la maison. Vous savez que les Chinois sont très friands de manicure et de massage. Eh bien, voilà, tout est possible grâce au online to offline. Et il y a plein de startups qui se sont montées sur ce sujet-là. Mm-hmm. Il y a une explosion vraiment des investissements. Donc qui ont quadruplé en ce domaine-là. Néanmoins, il y a eu quelques, bon, évidemment, dû au soubresaut boursier, il y a eu quelques complications. Il y a eu notamment le fameux Kung Fu Beer qui a été un peu malmené après un excellent lancement. Le Kung Fu Beer, donc c'était du massage à domicile. Hein. Et donc voilà, ils ont été en difficulté après les soubresauts boursiers. Les VC se sont un peu retirés de leurs activités. Et du coup, ils ont été menés à mal. Mais néanmoins, il y a de très beaux succès. Il y a quelques exemples assez étonnants avec des animaux fort curieux.
Oui, comme par exemple, mon cher Jean, le petit cochon chinois.
Exactement. Alors le petit cochon chinois qu'on appelle le Zhu Baijie, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Zhu Baijie parce qu'il y a des experts qui en parlent mieux que moi, mais en fait ça vient de la dynastie des Ming, ça vient d'un roman qui s'appelle les pérégrinations vers l'Est, les pérégrinations vers l'Ouest, pardonnez-moi. Donc c'est un moine qui va de la Chine vers l'Inde pour retrouver un manuscrit sacré. Il est entouré d'animaux qui sont un peu des réincarnations de personnages, dont un petit cochon un peu fainéant. Que les Chinois aiment beaucoup, qui ont vu en BD, donc qui est très très populaire. C'est un peu l'Astérix, si vous voulez, chinois, hein, le Zhu Baijie. Donc il y a un site internet qui s'appelle zhubaijie.com, qui a bien sûr une version anglaise, hein, qui s'appelle Whitmart, pardonnez-moi. Eh bien, que fait ce petit cochon fainéant? Ce petit cochon fainéant, en fait, est très intelligent. Parce que il a déjà 15 millions d'utilisateurs enregistrés. Il a un chiffre d'affaires qui est de 7,5 milliards de yuan, et il vise 10 milliards de yuan cette année, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard de dollars. Oui. Et en fait, l'idée, elle est très très simple, c'est s'appuyer sur toutes les richesses des forces vives du design chinois. Donc en fait, tous les Chinois qui sont à l'étranger aussi l'utilisent énormément, que ce soit des Chinois qui sont aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Il y a 25 pays qui utilisent cette application. Généralement, ce sont donc des Chinois qui ont entrepris à l'étranger. Et voilà, ils peuvent à la fois faire des sites qui ressemblent vraiment un peu à des sites chinois avec la culture chinoise, c'est-à-dire en gros pas mal de couleurs, beaucoup de caractères, quelques photos, c'est vraiment le style chinois qui fonctionne. Ils peuvent aussi maintenant tout simplement, c'est d'ailleurs pas toujours si simple, mais en plus du web design, des logos, des services de traduction, ils peuvent aussi assurer leur marque. C'est intéressant d'ailleurs de voir que de plus en plus de Chinois assurent leur marque, donc protègent leur marque. Cette notion de copyright devient de plus en plus importante pour les entrepreneurs chinois. C'est un bon signe, c'est un signe de qualité. Voilà, donc c'est notre petit cochon dont je voulais vous parler aujourd'hui, le Zhu Baijie. Oui. Allez regarder ce site, c'est vraiment le beau reflet de la Chine digitale.
Merci beaucoup Jean de Chambure.
Merci François.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Silicon Carnet, Cyber Gadget, c'est à suivre et c'est sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, nous allons parler de sommeil et de nouvelles technologies. Est-ce que cette multitude d'écrans, petits ou grands, que l'on consulte avant de dormir, nous empêche de bien dormir? Et puis, quelles sont les dernières innovations technologiques pour analyser notre sommeil? On verra ça dans quelques instants. Notre focus startup aussi dans quelques minutes. Aurore Giraud sera là pour sa sélection de cyber gadgets. Elle remplace Antoine cette semaine, mais tout de suite, c'est notre Silicon Carnet avec Pauline Canteneur. Rebonjour Pauline.
Bonjour.
Et donc, parmi les grandes tendances, on va parler du SXSW cette semaine, et parmi les grandes tendances du SXSW, de quoi allez-vous nous parler cette semaine ?
Alors moi, j'ai choisi de vous parler de la douce alliance entre la Smart City, donc la ville intelligente, et la Smart Mobility, la mobilité du futur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à en parler sous l'angle technologique, ce qui a été le cas par exemple au Consumer Electronic Show à Las Vegas. Et au SXSW, on fait attention à l'humain et on parle environnement et écosystème.
Alors plus concrètement, Pauline, est-ce que cela veut dire que les solutions de mobilité vont servir la Smart City ?
Ah oui, tout à fait. En quelque sorte, la mobilité, donc toutes ces startups, Uber y compris, qui viennent transformer notre manière de voir et d'expérimenter les transports, viennent aider la ville à faire face à ces challenges, à commencer par le défi démographique. Ouais, c'est un fait, on va être de plus en plus à vivre en ville. Juste un petit chiffre pour se rendre compte, à New York, la population devrait prendre 1 million d'habitants d'ici 2025. Des scénarios similaires se passent dans les plus grosses villes des États-Unis, que ce soit Chicago ou Los Angeles.
Et au SXSW, est-ce que le problème a été évoqué justement ?
Alors tout à fait. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule conférence à laquelle j'ai assisté sur la Smart City ou la voiture connectée, et j'en ai vu beaucoup. Aucune n'a commencé sans photos terribles de trafic urbain, des scénarios ultra dramatiques d'embouteillage. On a même le patron de la Google Car, Chris Hampson, qui nous a développé une analyse intéressante. Il dit les États-Unis pendant 35 ans en fait travaillaient à développer leur banlieue, à s'étaler, comme Los Angeles par exemple, hein, qui en a un bel exemple. Et aujourd'hui en fait ils se ressentent vers le cœur de leur ville. Et malheureusement les transports publics, c'est un secteur qui a été largement délaissé.
J'imagine alors que les initiatives privées prennent le dessus, hein.
Tout à fait. Alors, à commencer par l'Hyperloop. C'était une keynote les plus attendues du festival, avec l'intervention du CEO Dick Alborn, qui est en charge du projet. L'Hyperloop, vous savez, c'est ce projet futuriste lancé par Elon Musk. Concrètement, il s'agit d'une capsule ultra rapide qui est enfermée dans un grand tuyau, dans lequel on a retiré tout l'air, ce qui fait qu'il peut aller très très vite. Il peut parcourir en fait 1 kilomètre en 3 secondes. Et l'Hyperloop, au-delà du buzz, on va dire, que ce projet fait, ça permet l'idée derrière, c'est fluidifier le flux de personnes entrant et sortant dans les villes, et du coup réduire le trafic aux abords des villes. Voilà le but du projet Hyperloop.
À part Hyperloop, d'autres projets futuristes pour sauver les villes américaines, Pauline ?
Oui, alors Hyperloop, on lui reproche de pas trop s'intégrer au transport urbain préexistant, de pas s'attaquer à la question du fameux dernier kilomètre. Alors j'ai écouté une conférence très intéressante, ça s'appelle City Skyways, ça se passe à New York, et eux pour le coup prennent la chose très au sérieux.
Alors qu'est-ce que c'est City Skyways, Pauline ?
Alors ce sont des bus dans le ciel,
ah oui.
Imaginez-vous.
D'accord.
On a déjà vu ça sur les pistes de ski, c'est la télécabine, en soi rien d'extraordinaire, vous allez me dire. Sauf que depuis, la technologie a vachement évolué, on est capable aujourd'hui de faire rentrer plus de 40 personnes dans ces voitures dans le ciel, qui sont en fait reliées et portées, tractées par des câbles. En anglais d'ailleurs, on appelle ça gondola, c'est très très beau. Beaucoup de villes émergentes ont tenté la chose. Si vous êtes allé à Rio, vous avez pu monter sur le pain de sucre à bord d'une gondola. Aujourd'hui, à New York, on a envie de faire la même chose, pour relier Brooklyn et Manhattan en moins de 30 minutes. L'intérêt de cette solution, c'est que c'est d'une part ultra rapide, que ça permet de transporter beaucoup de gens, et c'est rentable. Quand on sait aujourd'hui que c'est un vrai casse-tête de s'occuper de la rentabilité des lignes de métro, c'est une solution qui arrive vraiment pour fluidifier le trafic dans les villes et améliorer notre qualité de vie.
D'accord, il s'agirait donc d'une optimisation considérable des réseaux de transport en commun, c'est ça, hein ?
Voilà, et du coup la boucle est bouclée, c'est-à-dire que la Smart City, c'est cette ville qui sait optimiser ses ressources, donc ses réseaux de transport urbain préexistants, qui maximise notre qualité de vie à titre individuel, parce que je vais passer 30 minutes en moins dans mes transports en commun, et d'un point de vue collectif, c'est une ville qui sait améliorer le vivre ensemble, parce qu'on tire profit des solutions de mobilité intelligente, et on sait faire face au fait que on sera plus dans les villes, et très rapidement.
Très bien, merci beaucoup Pauline Kantner pour ce spécial SXSW avec le futur des transports, c'est super passionnant. Merci beaucoup. Après Pauline, Aurore Géraud, la non moins passionnante Aurore, bien évidemment, retour dans notre studio à Paris. Aurore, sélection de Cybergadget, vous remplacez donc Antoine Cyr ?
Oui, je prends sa place.
Attention.
J'espère qu'il sera très content.
Chaque semaine, la barre est haute. Qu'est-ce que vous avez pour nous alors ?
Moi, je vais vous parler de biométrie aujourd'hui.
Ah, très bien.
Ça sera peut-être moins drôle qu'avec Antoine, parce que je suis quelqu'un de très sérieux, vous
oui,
le savez
vrai.
Très bien.
Mais ça fait votre charme aussi.
Mais quand même, je vais vous parler de biométrie. Biométrie, on connaît tous, identification des personnes via empreinte digitale, très
exactement.
Classique,
ouais.
Ou iris aussi, très classique. On a vu aussi depuis
quelques années des startups se lancer sur le pouls, les veines aussi. Et là, moi, je vais vous parler de biométrie auriculaire de l'oreille.
L'oreille biométrique.
L'oreille biométrique.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, il y a une entreprise qui s'appelle NEC, N-E-C, qui vient de créer une paire d'écouteurs intra-auriculaires. Donc, vous mettez bien au fond de vos oreilles. Une paire d'écouteurs très spéciaux puisqu'ils sont dotés d'un micro qui envoie du son, et en fonction de la manière dont a été capté le son par votre oreille, il va pouvoir vous identifier tout particulièrement. Alors en fait, dans une oreille, très clairement, ce qui permet d'être identifié, c'est la longueur du tympan, qui est différente d'une personne à une autre, et les circonvolutions qui sont en fait les différentes ramifications à l'intérieur de votre oreille, qui sont très spécifiques à votre oreille, effectivement. Et donc cette reconnaissance serait précise à 99%.
Plus que les autres systèmes, en fait.
Peut-être pas plus, mais je pense...
Mais c'est déjà pas mal,
99%, ouais. Et surtout, ça pourrait être utilisé dans des environnements bruyants, puisque il y a à la fois donc une espèce de d'algorithme qui permet d'isoler les différents sons extérieurs, mais en plus, le fait que ça pénètre directement dans l'oreille fait qu'on n'entend que ce qui est dans la paire d'écouteurs. Alors, pour l'instant, la technologie n'est pas encore mise en vente. On devrait l'attendre pour 2018, donc juste à temps pour l'iPhone 7S ou le Galaxy S9. Et donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que donc c'est pas la première fois qu'on parle de biométrie au niveau de l'oreille. Notamment, je crois que c'est les médecins légistes et les policiers. D'accord. Qui arrivent à détecter grâce à la forme du lobe les individus. D'accord. C'est devenu une preuve en tribunal.
D'accord.
Donc c'est pas nouveau en soi.
C'est un peu comme une empreinte digitale.
C'est une empreinte digitale.
C'est une empreinte d'oreille en quelque sorte.
Tout à fait.
Voilà. On enchaîne avec le deuxième gadget.
La deuxième. Ouais.
Allez,
tout à fait. Alors je reste dans le corps humain et je vais vous parler de lunettes intelligentes, mais qui s'intéressent à la vue. Ça arrive pas souvent. En général, les lunettes c'est beaucoup plus.
C'est des lunettes intelligentes qui permettent de voir des choses, mais qui corrigent pas la vue.
Voilà, tout à fait.
C'est ça.
Alors là, en fait, la lunette en elle-même permet aux personnes ayant des troubles de la partie externe de l'œil de voir plus correctement. Alors, comment on fait ça? Alors, l'université de Tokyo a développé un système qui s'appelle QD Laser, qui en fait utilise des petites caméras sur les lunettes intelligentes qui capte l'image qui est en face de la personne, et grâce à un laser, un mini laser, il s'est envoyé directement sur la rétine de la personne, ce qui lui permet de voir correctement en fait ce qu'il y a devant lui. Et donc ces lunettes sont qu'au stade de prototype pour l'instant. Elles ont été exposées pour la première fois fin février à Osaka et elles devraient être mises sur le marché d'ici la fin de l'année.
Parfait, merci beaucoup Aurore Géraud. On revient dans un instant à la suite de cet atelier numérique. Dans une minute les amis, Focus Startup, on va s'intéresser à Workies. Et puis notre enquête de l'atelier, comme je vous le disais, on va s'intéresser au sommeil et aux nouvelles technologies. Et puis juste après ça sera notre web stratégie. À tout de suite, c'est l'atelier numérique sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, nous allons parler sommeil et nouvelles technologies. Et croyez-moi, c'est pas un sujet à dormir debout. Ça sera dans quelques instants pour notre enquête de l'atelier. Mais auparavant, notre focus start-up sur BFM Business dans cet atelier. Et en compagnie d'Aurore Géraud, on va découvrir Workies, Aurore.
Alors, je suis aujourd'hui pour ce focus start-up avec François-Marie, qui est donc cofondateur de Workies. François, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le nom Workies ?
Alors Workies, c'est une start-up qui a été lancée en janvier 2015, qui a pour objectif de démultiplier la force commerciale des entreprises. Quand on parle de force commerciale, on pense souvent à des grands groupes. Et en fait, nous, Workies, on est la première start-up aux 3000 commerciaux.
On fait comment pour avoir une vraie force commerciale ?
Alors c'est assez simple pour les entreprises, en fait on les amène à créer une mission. Une mission c'est simple, c'est déterminer un succès et le prix par succès. Donc on va prendre un exemple, une entreprise arrive sur la plateforme et dit très bien, moi je vends un produit 100€, je suis prêt à donner 20€ à l'étudiant s'il vend mon produit. Et du coup l'idée c'est qu'à chaque vente l'étudiant va être rémunéré et la force commerciale de l'entreprise est du coup autofinancée par le succès. Mais après on peut très bien penser un étudiant et lui demander d'intervenir sur de l'obtention de rendez-vous ou un fichier de prospection sur mesure. L'étudiant intervient sur 3 points.
Comme il est entre guillemets rémunéré au succès, il y a une forme de ludification.
Ludification, gamification, c'est ça. Effectivement, le métier de commercial, on est en train de le gamifier. Et après, en fait, le fait d'être rémunéré au succès, ça a beaucoup d'avantages. Pour l'étudiant, ça lui donne une énorme liberté. Parce que du coup, il n'a pas de contraintes d'horaire, il s'engage sur le succès et pas sur le moyen.
Et alors du coup, c'est quoi l'intérêt de l'étudiant? Est-ce que ça booste un petit peu le CV?
Complètement. L'étudiant, en fait, il y a trois avantages à passer par Workies quand on est étudiant. Premièrement, ça booste le CV parce que le métier de commercial, c'est un métier en fait qui permet de rentrer par la grande porte dans les entreprises. Les étudiants, ils ont un impact direct sur la croissance des entreprises, sur la trésorerie des entreprises. Ça leur permet du coup de se créer un énorme réseau qui va les aider demain à s'insérer professionnellement. Et puis après, ça leur permet bien sûr d'être bien rémunérés. Parce que le métier de commercial permet vraiment d'être bien rémunéré. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, on considère que, si on regarde juste les CDI, les métiers de commerciaux sont payés 57% plus cher que les autres.
Et l'intérêt, du coup, pour l'entreprise, c'est aussi une phase de test?
Oui, pour l'entreprise, en fait, l'intérêt de passer par Workies, c'est potentiellement de recruter, hein, parce qu'elle va pouvoir tester des étudiants directement sur le terrain. Mais je dirais surtout, les entreprises, quand elles passent par Workies, elles ont envie de démultiplier leur force commerciale. Elles ont envie d'avoir 20 commerciaux qui travaillent demain avec eux. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une mission est créée sur la plateforme. On teste une mission rapidement avec 3 étudiants. Et si la mission marche, c'est-à-dire si elle génère du succès et que tout le monde, du coup, est satisfait, on peut scaler complètement la mission et demain mettre 5, puis 10, puis 15, puis 20 étudiants commerciaux dans toutes les villes de France et demain à l'étranger.
Et comment vous choisissez vos étudiants? Est-ce que c'est du bouche à oreille? C'est du réseau?
Complètement. En fait, on a un seul critère de sélection des étudiants, c'est la motivation. C'est le plus important. Donc on va largement au-delà des grandes écoles. On a commencé avec les écoles de commerce, mais c'est vrai que ce qui compte pour nous, c'est des étudiants motivés. Donc après, comment est-ce qu'on les trouve? On les trouve soit parce que nos étudiants nous les recommandent, soit également parce qu'on a fait un parcours un peu de sélection sur le site. On l'appelle le parcours de l'échec. C'est un parcours qui nous permet de voir les étudiants qui sont motivés, qui sont jusqu'au bout. Et en fait, ces étudiants motivés, c'est eux qu'on place en mission.
Alors, vous êtes incubé HEC, vous êtes accéléré au NUMA. C'est quoi la suite?
Alors, la next step après l'accélération, c'est vraiment la levée. Aujourd'hui, on cherche à lever 500 000 euros. On est déjà en relation avec de nombreux investisseurs qui se disent tout simplement aussi qu'ils vont pouvoir investir dans la plus grande force commerciale au monde demain. Aujourd'hui, donc la force commerciale Workies, elle est nationale, elle est locale. Demain, elle sera globale et locale parce que vous aurez des commerciaux locaux dans le monde entier. Donc aujourd'hui, on a énormément d'acteurs qui nous aident à construire cette force commerciale, la plus grande force commerciale au monde.
Merci beaucoup François.
Merci à vous.
Merci beaucoup Aurore, et place à notre enquête de l'atelier. Comme promis donc, on va parler du sommeil et des nouvelles technologies. Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques mois, voire quelques années, on nous propose des capteurs un peu sous toutes les formes, avec toutes les technologies pour analyser notre sommeil, que ce soit des capteurs sous les matelas, ou bien des bracelets, ou que sais-je d'autre. C'est pas terminé, Lila, et ça se précise, il y a de plus en plus de technologies dans ce domaine.
Tout à fait, et surtout on va également s'intéresser à l'impact de tous nos petits écrans, tous nos petits appareils sur notre sommeil, avec nos deux invités, le docteur Marie-Françoise Vecchierini. Bonjour.
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 Alors, Marie-Françoise Vecchierini, vous êtes neuropsychiatre au Centre du Sommeil à l'Hôtel Dieu. Et nous avons également le plaisir d'avoir en studio Hugo Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Hugo Mercier, vous êtes président et cofondateur de la start-up Dream.
Alors, avec deux œufs, attention.
La start-up Rhizome.
Rhizome.
Exactement. Et on va parler du programme Dream. Voilà. Exactement. Exactement. Alors hier en fait c'était la journée nationale du sommeil.
Et donc ça s'est bien passé, Lila. Vous avez passé cette bonne journée comme il faut.
Ah bah j'ai
vous
très
l'avez
bien
fêté
dormi,
dignement comme il fallait.
Tout à fait. L'issue de la semaine, elle était vraiment bienvenue. Et en fait en cette occasion, le MGEN a révélé une enquête cette semaine dans le cadre donc de cette 16e journée du sommeil. Nous relatant, nous informant un peu sur les habitudes de sommeil des Français, mais également en nous renseignant sur l'impact des nouvelles technologies sur le sommeil. Alors, comme je disais, on a le plaisir d'avoir le docteur Marie-Françoise Vecchiarini. Alors, est-ce que vous pourriez nous tracer une esquisse quelque peu sur comment dorment les Français aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé pour le sommeil des Français avec l'arrivée, l'incursion de nos petits smartphones, tablettes et divers écrans.
Tous ces petits écrans lumineux.
Alors, l'enquête qui porte sur le sommeil en général montre que les chiffres de durée de sommeil sont assez stables depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'en moyenne, en population générale adulte, les gens dorment 7 heures par nuit la semaine et récupèrent un peu le week-end puisqu'ils dorment plus 1h10 à peu près en moyenne. Néanmoins, derrière cette moyenne, il y a juste un chiffre un tout petit peu préoccupant, c'est que près de 30% des personnes vont dormir moins de 6 heures pendant la semaine. Alors vous savez qu'on considère que 6 heures, pour quelqu'un qui a une durée de sommeil habituelle, c'est un peu la frontière à ne pas franchir, car après surviennent les complications liées à l'insuffisance de sommeil. Et d'ailleurs, c'est 30% de personnes qui vont récupérer beaucoup plus le week-end, ce qui prouve bien qu'ils sont en dette de sommeil, puisqu'ils vont dormir environ 1h40 à 1h50 de plus le week-end.
Quelle est la durée, on va dire, de la nuit idéale pour un adulte même si j'imagine que
la distribution de la durée de sommeil est, je dirais, gaussienne. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité de personnes qui dorment 8 heures.
D'accord. 8 heures, c'est un peu la référence, on va dire.
Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque, quelque part, de sommeil?
Alors, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à diminuer le temps de sommeil. L'un d'entre eux est peut-être ce que on pourrait presque appeler, mais c'est un mauvais terme, une addiction aux nouvelles technologies, puisqu'il s'avère dans cette étude qu'il y a un très fort pourcentage d'abord de gens qui ont des smartphones, micro-ordinateurs, ce qui arrive encore en tête, à usage personnel chez eux, ce qui veut dire à peu près 98%. Des gens de l'enquête qui ont répondu avoir chez eux des outils et qu'ils utilisent à usage personnel. C'est-à-dire que, véritablement, ce genre d'outil a envahi nos maisons, puisque ce n'est pas des fins professionnelles.
Mais alors, de votre point de vue de médecin, est-ce que ça va être le temps qu'on va passer au travail devant les écrans, ou est-ce que c'est directement l'arrivée de ces petits écrans juste avant l'heure de se coucher qui va impacter notre qualité ou durée de sommeil?
Alors, il est sûr qu'il y a 2 ou 3 facteurs qui interviennent surtout, c'est-à-dire la durée de l'exposition. Lorsqu'il y a dans la lumière qui va sortir de ces écrans, plus elle va être riche en lumière bleue, plus elle va être éveillante, entre guillemets. Mmh. Et en dehors de la durée, il y a le moment. Car on sait que notre horloge biologique est particulièrement sensible à cette lumière en fin de journée. Donc, c'est vrai qu'il y a le moment de la journée, la durée de l'exposition, et que rester, par exemple, dans son lit avec lire son smartphone qui donne pas mal, ou lire sa tablette ou autre chose, va être plus nuisible.
D'accord.
Que de travailler sur ordinateur.
Donc,
dans la journée.
Le conseil, docteur, c'est on se couche, on laisse le téléphone, le smartphone, sur la table de nuit sans le toucher avant de s'endormir.
En mode avion, où on les sort.
D'accord.
De la pièce.
Ouais.
Ou bien on peut avoir recours à à votre produit Hugo Mercier de la start-up Rizum. Vous avez développé en fait une espèce de wearable connecté capable en fait d'agir sur notre sommeil. C'est ça?
Oui, exactement. En fait, c'est un bandeau connecté, le premier bandeau connecté actif, qui va pouvoir améliorer la qualité du sommeil. Et en fait, donc le principe de fonctionnement, c'est qu'on va faire une mesure de l'électroencéphalogramme, qui est l'activité électrique des neurones. On va analyser et interpréter en temps réel cette information-là, et on va déclencher des stimulations sonores synchronisées avec certains événements qui ont lieu pendant le sommeil. Et la conséquence de ça, ça va permettre en fait d'induire du sommeil profond. Donc quand on dort, en fait, on passe par différentes phases et différents cycles de sommeil qui ont chacun une importance particulière puisqu'elles sont associées à des phénomènes physiologiques et biologiques particuliers. Le sommeil profond est une phase particulièrement critique puisque c'est pendant cette phase-là qu'on a notamment, par exemple, la consolidation de la mémoire, la régénération cellulaire, la libération et la régulation d'hormones.
Et c'est là qu'on se repose, non, j'imagine,
c'est
aussi
un, c'est un peu ça. C'est pendant cette phase-là que le corps, le cerveau et les muscles
rechargent la batterie, un peu comme le smartphone.
Vont recharger par rapport à la journée, exactement.
D'accord.
Donc nous, le but de ce qu'on fait, et c'est vraiment assez différent de ce qu'on peut trouver. Donc déjà, on a le côté de mesure du sommeil qui est plus précis que ce qu'on peut trouver sur les appareils aujourd'hui. Parce que la vraie façon, en fait, de caractériser le sommeil, c'est par l'acquisition d'activité cérébrale. La vraie classification des phases de sommeil,
c'est pas simplement avec des capteurs de mouvement.
Voilà. Capteurs de mouvement, ils vont dire si vous bougez pas, vous êtes en sommeil léger, si vous en sommeil profond, et vice versa. Donc déjà, il y a l'acquisition de la structure du sommeil qui est plus précise. Il y a vraiment ce côté actif-là, auquel nous on croit beaucoup, qui va permettre d'optimiser le sommeil, d'en améliorer sa qualité.
C'est-à-dire que vous avez provoqué certaines situations de sommeil, par exemple, donc le sommeil profond, c'est vous qui allez le stimuler, en tout cas le provoquer.
C'est ça. En fait, il y a un certain rythme cérébral pendant le sommeil profond, qu'on appelle le rythme lent, les ondes lentes, qui est le rythme cérébral prédominant en phase de sommeil profond. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer l'activité cérébrale et engager des stimulations qui sont synchronisées avec cette activité-là, ayant pour but de contribuer et de prolonger ces rythmes lents pour avoir plus de sommeil profond.
Mais l'objectif, c'est quoi? C'est finalement de dormir moins et d'être plus en forme, ou c'est...
Alors, je dirais pas ça. Le but, c'est qu'en fait, quand on regarde les chiffres, effectivement, donc il y a un peu plus d'un tiers de la population qui souffre d'un sommeil de mauvaise qualité. On parlait du smartphone, mais il y a beaucoup d'autres facteurs comme le stress, les contraintes de productivité, les facteurs environnementaux. Et en fait, si on regarde bien, effectivement, il y a la durée qui compte, mais je dirais qu'il y a aussi la qualité qui compte. Puisqu'après, bon, si on parle d'une durée, on regarde pas forcément le nombre de réveils pendant la nuit. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est améliorer la qualité, éviter les réveils pendant la nuit et, on va dire, rendre le sommeil plus profond.
D'accord.
Votre étude est contrôlée? C'est-à-dire que vous avez des études contrôlées en double aveugle avec des gens qui...
Bien sûr. Alors, on a fait en fait les premiers tests. On est issu d'un projet scientifique en laboratoire, à l'Institut Cerveau et la Moelle Épinière. Donc, on a débuté avec des tests. Après, on a dû développer toute la partie technologique, sur laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a eu de grands challenges pour passer d'un équipement d'électroencéphalographie traditionnel à un produit que tout le monde peut utiliser,
qui soit
confortable,
plus léger,
qui soit beaucoup plus léger
et confortable.
Sachant que d'ailleurs, si on va en clinique du sommeil, on va voir ce qu'on porte, c'est 40 électrodes collées avec de la glu. Donc, on voulait quelque chose quand même beaucoup plus confortable. Et donc, on a recommencé ensuite les tests en interne. Et on débute nos essais cliniques en juillet en partenariat avec l'armée et l'Institut de recherche biomédicale des armées.
D'accord, donc c'est pas encore disponible, c'est ça.
Non disponible et non encore prouvé, mais en voie de recherche.
On a la puissance statistique dans nos bases de données.
Je sens un peu dubitatif quand même, docteur.
Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai tout à fait confiance en l'IRBA qui travaille beaucoup aussi avec nous à l'hôtel. Donc l'IRBA, c'est le centre de recherche de l'armée.
Et alors, quel est le calendrier pour ce bandeau? Quand est-ce
Après,
qu'on pourra l'acheter?
Il y a un problème de fond, c'est qu'il faut savoir si on produit des ondes lentes ou si on produit du sommeil lent profond. Ce n'est pas la même chose.
Oula, ah oui. Là, on rentre un peu
et
dans
ça, c'est une idée. Non, mais après, il y a d'autres produits qui existent comme ça sur le marché.
On pourra passer un peu plus de temps à en discuter, si vous voulez.
Hugo, ça pourrait sortir quand?
Alors là, aujourd'hui, donc on a préféré, au lieu d'arriver tout de suite avec un lancement grand public, commencer par une première édition en série limitée. Donc là, aujourd'hui, le produit est disponible en série limitée. Donc les gens peuvent aller sur notre site rizum.co, aller s'inscrire pour participer au programme qu'on appelle le Dream First Programme. Et donc, on va sélectionner 500 participants qui pourront avoir le produit en avant. avant-première. Et le vrai lancement grand public aura quant à lieu, lui, plutôt début 2017.
Il y a quel prix à peu près cet appareil ?
Il est aujourd'hui à 350 € et $350 aux États-Unis.
Très bien. Mais voilà, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Hugo.
Merci.
Et merci, docteur, d'avoir été avec nous ce samedi après-midi.
Merci beaucoup.
Merci. Lila, on revient dans un instant. On va poursuivre cet atelier numérique avec notre web stratégie dans une minute. On va parler de la pharmacie connectée. Tiens, on va rester dans le domaine médical. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre passion selon Saint-Net. On va parler de spatial et d'innovation dans quelques minutes. Mais auparavant, notre web stratégie, une vision de la pharmacie connectée avec Lila Megrahoua et son invité, Lila.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
François, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation, l'évolution du métier du pharmacien. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste, Lucien Benatan. Bonjour.
Bonjour.
Alors Lucien Benatan, vous êtes président de Pharmacie Référence Group, qui est un groupement qui réunit environ 8% des pharmaciens français. Alors vous êtes lancé il y a peu dans un concept de pharmacie connectée, ma pharmacie référence, il me semble. Est-ce que vous pourriez en dessiner les contours pour nos auditeurs ?
Alors cette pharmacie connectée va dénoter par rapport aux pharmacies classiques. Déjà lorsque vous allez vous trouver face à cette pharmacie, vous allez vous rendre compte que les vitrines en carton, c'est fini, on n'en parle plus. Nous sommes déjà avec des écrans LED, voire des vitrines digitales, des écrans digitaux. Lorsque vous rentrez, pénétrez dans cette officine, vous allez trouver une borne d'accueil. Vous allez pouvoir vous identifier en présence d'une carte de fidélité ou pas d'ailleurs. Vous allez à ce moment-là indiquer aux pharmaciens et à l'équipe de la pharmacie pourquoi vous êtes rentré dans l'officine, pour rechercher une ordonnance, pour prendre une commande que vous avez passée à un produit manquant, voire prendre rendez-vous avec votre pharmacien ou rendez-vous avec une diététicienne. Ensuite, vous allez vous trouver confronté à un web bar. Alors, on n'est pas là pour vous servir le café ni le thé, mais on est quand même là devant un élément identifiant, marquant de cette enseigne. Vous allez pouvoir vous asseoir autour de ce web bar, disposer d'écrans tactiles. Ces écrans tactiles vous proposent tout un tas de solutions, voire des tests, et pourquoi pas aussi de prendre un nouveau rendez-vous, consulter des fiches santé que vous allez pouvoir vous envoyer. Ce web bar est équipé aussi d'un écran, et lorsqu'il a la technologie RFID, dès lors que vous allez prendre un produit présent sur ce web bar, la fiche produit va apparaître avec pourquoi pas son prix. Et puis ma foi, au back office, nous avons travaillé aussi la présence de la technologie et de la digitalisation pour favoriser la relation entre le pharmacien et les patients.
Par quel type de service ? Est-ce que ça veut dire que le pharmacien va pouvoir avoir à disposition, par exemple, une partie du dossier médical du patient ?
Oui, alors, on va commencer déjà par développer un nouveau marché qui est la vente d'objets connectés. Deuxième nouveau marché que nous pensons important, c'est les solutions santé, parce que l'avenir appartient pas à la vente de produits, mais à la vente de produits avec des services comme consultation diététicienne, consultation avec des pharmaciens, mais aussi location d'objets connectés, puisque le pharmacien n'a pas vocation à vendre du plastique. Je crois qu'il y en a d'autres qui savent très bien le faire. Et cette solution santé complète va fournir un certain nombre de données santé. Et le pharmacien, me semble-t-il, en tous les cas, ça nous a semblé à nous évident, le pharmacien est l'acteur de santé porte ouverte, le plus proche, disponible, permettant d'interpréter ces données. Donc, ces données de santé seront collectées au niveau du dossier pharmaceutique du patient, permettant une meilleure prise en charge. Et donc finalement, la technologie se trouve à un carrefour qui va nous permettre de développer l'hyper-personnalisation de la relation entre le professionnel de santé et le patient.
Donc l'idée, c'est de faire de la pharmacie plus qu'un lieu de passage, mais un véritable espace de vie autour de la santé, du bien-être.
Oui, vous savez, une consultation de médecin, la moyenne en France, c'est 8 minutes. Donc on voit bien que le médecin n'a plus vraiment le temps de nous prendre en charge. En pharmacie, c'est un peu plus long grâce au tiers payant, on va dire. Donc on a 10 minutes. Mais je pense que aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec le développement de la prise en charge en ambulatoire, donc on passe moins de temps à l'hôpital, le pharmacien va avoir un rôle primordial à jouer dans le système de santé. Le système de santé est en train d'évoluer. Il y a d'abord un développement de ce qu'on appelle la prévention, donc du parcours de santé. On a envie de rester en bonne santé le plus longtemps possible, et c'est normal. Et puis, il y a le développement du parcours de soins, où aujourd'hui, une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire. Médecin, pharmacien, infirmière, kiné, échange de données entre ces professionnels de santé, de manière à ce que, une fois que je sors de l'hôpital, je sois bien pris en charge par l'ensemble de ces professionnels. Et quelque part, le pharmacien va avoir un rôle de pierre angulaire. Il va être à la fois celui qui va orienter, celui qui va conseiller, celui qui va faire évoluer les prescriptions, et la technologie doit nous aider à mettre en place tout cela à masse salariale constante, parce que l'économie veut que ça fonctionne ainsi.
Est-ce qu'à partir de tout ce dispositif, le pharmacien pourrait revenir sur une dimension de prévention en accompagnant le patient de manière aussi proche? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de prévention du côté du pharmacien qui reste un professionnel de santé avant d'arriver chez le médecin déjà malade?
Tout à fait, il y a deux rôles à développer pour le pharmacien grâce à cet avènement de la technologie. Clairement, on a le côté observance, mais c'est pas un mot observance, parce que l'observance, c'est très technique. Ce que je veux dire, moi, c'est l'adhésion au traitement. Bien comprendre mon traitement et pourquoi je dois bien le prendre. Ça, c'est un rôle pour le pharmacien de demain, essentiel. C'est presque un rôle d'épidémiologiste et de suivi. Bon. Et puis, il y a toute la notion de prévention. C'est clair, dans nos pharmacies, on voit des malades, mais on voit aussi des non-malades. On voit ce qu'on appelle les accompagnants. Et ces gens-là, si je puis dire, ont besoin qu'on les prenne en charge aussi et qu'on les aide à rester en bonne santé. Et prévenir, c'est aussi guérir, on le dit. Et donc, clairement, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine-là, surtout que on le sait maintenant avec l'évolution de la médecine prédictive est en train d'arriver. Et la médecine prédictive, ça veut dire que dès mon plus jeune âge, je vais savoir quels sont mes risques. Et moi, pharmacien, je devrais accompagner, c'est bien important, pour que justement on ne passe pas en chronique et qu'on reste en aigu. Dans le cadre d'aigu, de celui qui est un peu pressé, qui veut son traitement tout de suite, etc., là encore, le pharmacien a un rôle essentiel. Et la technologie va nous permettre, grâce à la tenue de dossier, grâce à l'interprétation des données, va nous permettre de donner le bon produit à la bonne personne, au bon moment, et peut-être d'éviter des abus d'usage, voire des interactions inutiles.
Est-ce qu'il n'y a pas également une dimension de formation auprès des pharmaciens ? Allons plus loin, est-ce que le pharmacien ne va pas devoir développer une compétence de data scientist ?
Ah, parfaitement, là ça c'est clair. Aujourd'hui, certes, le pharmacien a une formation pluridisciplinaire de par ses études, mais je pense que sur la notion de data, sur la notion d'analyse de ces data, il y a soit à la faculté de pharmacie des efforts à faire, mais il y a aussi des formations post-installation qui doivent être mises en place. Médecins et pharmaciens doivent travailler main dans la main dans ce domaine, c'est évident.
Lucien Benatan, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes président de Pharmacie Référence Group.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de l'atelier. On va parler d'espace dans un instant pour notre patient selon Sanette. À tout de suite.